dois vous dire que l'autre lieu dont je parle, c'est que au syndicat, l'importance de la formation, mais aussi de l'organisation des publics de première ligne, est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, il confie, la CC, on confie ces questions-là à une association d'éducation permanente, la FEC, Formation, Éducation, Culture, dont j'ai le plaisir d'être responsable. Et donc, notre rôle, c'est d'une part d'animer un certain nombre de groupes spécifiques, et par exemple des groupes qui sont aussi dans une très grande précarité, puisqu'on anime tous les groupes spécifiques des travailleurs sans emploi, des chômeurs, voir comment est-ce qu'on peut s'organiser dans la société dans laquelle on est aujourd'hui pour revendiquer un certain nombre de choses, pour collectiviser les plaintes individuelles, voir comment on travaille collectivement. Et à côté de ça, la FEC organise aussi toute la formation pour les déléguer en entreprise. Et donc, cette formation, on la veut pas seulement technique, hein, pas seulement la question de la législation sociale, etc., mais vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut aujourd'hui être acteur de transformation sociale. Et donc, la question des inégalités, vous la voyez très clairement avec les publics avec lesquels vous travaillez, et nous, on la voit aussi très clairement avec les publics avec lesquels on travaille, que ce soit des publics précaires, les travailleurs sans emploi, les femmes qui sont dans des temps partiels contraints qui n'arrivent pas à venir de nous, mais de plus en plus avec ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Aujourd'hui, en Belgique, un travailleur sur sept ne sait pas nouer les deux avec son travail. Donc on est, je pense, tous, de là où on est, confrontés à quelque chose qui est vraiment... par rapport à quoi il est vraiment urgent d'agir. Hein, donc, et l'idée de cette petite prise de recul, c'est non seulement de voir un peu, de mettre le nez, de mettre le regard sur ce qu'on en voit, les inégalités, et je pense que ici, j'ai pas grand-chose à vous dire par rapport à ça, parce que vous le voyez avec tous les publics avec lesquels vous travaillez, dans tous les ateliers, on a parlé de ça. Il y a un deuxième angle d'approche des inégalités, et j'y viendrai un petit peu quand même, Étienne en a aussi parlé, c'est les causes de l'inégalité, hein, parce que si on ne recherche pas les causes, on ne va pas non plus pouvoir se demander comment on va pouvoir combattre les inégalités. Notre but, ce n'est pas juste de mettre des sparadraps sur ce qui ne fonctionne pas, mais dans la recherche que vous faites, c'est bien de pouvoir agir à la fois sur le micro, mais aussi sur le macro, sur des changements structurels qui permettraient justement de combattre ces inégalités. Et quand je vais parler des causes, je vais aussi parler de l'évolution. Donc, Étienne l'a dit en introduction, à un moment donné, il y a un mouvement ouvrier qui s'est mobilisé de manière très forte dans l'après-guerre pour pouvoir revendiquer l'égalité. Et donc aujourd'hui, on n'a plus ce rapport de force. Et donc il faut aussi essayer d'analyser pourquoi ce qu'on a pu avoir à un moment donné est en train de s'effriter. On a tous une responsabilité là-dedans. Les politiques, évidemment, les puissances financières et économiques, évidemment. Mais nous, comme acteurs sociaux, c'est aussi par rapport à ça qu'on doit pouvoir se combattre et voir quels sont les leviers d'action qu'on veut pouvoir mettre en place. Et alors, j'aimerais vous parler, puisque là, on prendra peut-être un peu un regard qui permet de voir d'où on vient, mais aussi où on va. Parce que je crois qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui des mutations par rapport auxquelles on se trouve. Et donc ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est qu'une toute petite pointe d'un iceberg qui, à mon sens, pour deux générations, va être encore très très compliqué à gérer. On est face à une mutation technologique qui va avoir un impact majeur sur le travail. Or, c'était le travail qui était ce qui permettait en fait la protection sociale. Et donc tout ça, il va falloir du temps pour pouvoir le remettre en question, pour pouvoir redonner de la sécurisation aux individus. Et donc j'aimerais parler un peu de ces défis-là. Et puis alors, enfin, ben, tu m'arrêteras, Étienne, pour qu'on laisse le temps à la salle, peut-être parler un peu des pistes aussi, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là, des pistes pour travailler sur ces inégalités. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'on voit des inégalités. On sait qu'à Bruxelles, 4 enfants sur 10 grandissent dans la pauvreté. 4 enfants sur 10, est-ce qu'on se rend bien compte que dans un des pays les plus riches de la planète, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Comme je vous le disais, un travailleur sur 7 n'arrive pas à mener de vous. On ne parle même pas de tous les groupes spécifiques qui n'ont pas accès au travail, hein, dont on détricote maintenant depuis un certain nombre d'années. Nous, on est fortement confrontés à l'exclusion des demandes d'emploi qui se trouvent dans les CPS, etc. C'est vraiment incroyable. Mais de manière plus structurelle, peut-être dire 2 choses. L'augmentation de la pauvreté, c'est aussi le fait que, finalement, l'égalisation qu'on avait pu trouver dans la classe moyenne, elle s'effrite. Cette classe moyenne, petit à petit, une part de cette classe moyenne ne parvient par exemple plus à accéder à la propriété. Donc il y a toute une série d'indicateurs qui montrent que ce que la génération précédente avait pu obtenir dans ce qu'on appelait l'ascenseur social, aujourd'hui ce n'est plus vrai. Nos enfants vont vivre dans des conditions plus détériorées que nous. Et donc c'est ça aussi qu'il faut être conscient de ça. C'est qu'on a quelque chose qui se détériore. L'autre chose, c'est qu'avant, quand on réfléchissait aux inégalités, on se disait, tiens, c'est social. Donc on vient d'une famille pauvre, et donc l'enfant est pauvre au départ, etc. Et donc on avait des espèces de catégories. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait un bon travail, mais qui le perd du jour au lendemain, peut se retrouver très très vite, à cause d'un accident de la vie, dans une situation précaire. C'était moins le cas avant. Donc ça, c'est pour moi 2 éléments dont il faut se rendre compte aujourd'hui, enfin, qui sont finalement des éléments importants par rapport à ce qu'on voit du système inégalitaire. Alors, le regard sur les causes, Étienne a parlé tout à l'heure de la cause majeure. La cause majeure, c'est qu'on est quand même toujours dans un monde occidental où il y a une productivité de richesse, mais que cette richesse est vraiment inégalement répartie. Donc, entre ce qui va aux revenus du travail, ou aux allocataires sociaux, à ce qui va financer la protection sociale, et ce qui va d'autre part aux revenus du capital, les dividendes, et aux rentiers, on a une courbe, j'aurais pu prendre une dia avec moi, mais une courbe qui l'a pas montrée. Il y a une courbe qui montre à quel point aujourd'hui et depuis les années 80, on rétribue beaucoup plus les revenus du capital que les revenus du travail. Et quand on parle des revenus du travail, ça veut aussi dire tout ce qui est l'enjeu de la protection sociale. Et donc, outre la question de la distribution des richesses, qui est vraiment lié aux politiques néolibérales, mais on ne peut pas rentrer dans les détails, parce que sinon on en a pour toute une journée. Je voudrais revenir justement un peu sur la place du travail dans la société. Pourquoi j'ai parlé de la place du travail dans la société? Eh bien parce que on est aujourd'hui encore dans un modèle, en tout cas en Belgique, où on considère que c'est le travail qui va protéger l'individu. Or, il y a moins de travail, le travail a changé, et donc le travail ne protège plus l'individu. Donc j'aimerais revenir là-dessus, parce que je pense qu'il faut vraiment voir ça en tête quand on se dit qu'on va lutter contre les inégalités. Donc, au départ, dans l'après-guerre, si vous voulez, à un moment donné, il y avait tout qui était à reconstruire, et donc les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs ont décidé de faire un pacte. Donc jusque-là, chacun restait un peu sur son précaré. Les employeurs voulaient faire le plus de profit possible et donner très peu de droits aux travailleurs. Et les travailleurs, repenser au film d'Anne, devaient trimer, et étaient dans des conditions inadmissibles. Bon, on ne va pas revenir sur toute l'histoire sociale, mais à ce moment fondateur de la première, où le mouvement ouvrier a réussi à coaliser les intérêts et à mener un pacte, ce qu'on appelle le pacte social de 1944, qui visait à se dire que, oui, on va tous se mettre ensemble pour recréer de la richesse, mais il faut que cette richesse, elle soit justement répartie. C'est-à-dire que les travailleurs acceptent que l'intérêt des employeurs, c'est de créer de la richesse, d'avoir une productivité, de faire du profit. Donc on n'est pas dans un système où on se dit que le profit n'est pas possible. Les employeurs acceptent, les travailleurs acceptent ça, mais en contrepartie, ils demandent de pouvoir bénéficier d'une partie de cette richesse. Tant sur le plan matériel, avec une augmentation des salaires, avec la possibilité de mettre en place tout un système de sécurisation de l'existence, un système de protection sociale, que sur le plan beaucoup plus qualitatif, avec petit à petit des journées moins longues de travail, des vacances, des congés payés, etc. Et donc, on a à ce moment-là une vision de la protection sociale qui est encore celle qui fonctionne aujourd'hui, mais ne fonctionne plus justement, où finalement, grâce au fait que on se met ensemble autour de la table pour gérer la richesse produite, on va pouvoir sécuriser les parcours des individus. À ce moment-là, évidemment, les individus qui travaillent, c'est souvent le père de famille qui va faire toute sa carrière dans une même entreprise, qui a un contrat de prêt indéterminé à temps plein. Donc on avait une vision du travail qui n'est pas la même que celle du travail. Et sur ce travail, on prélève une part de ce qu'on appelle le salaire socialisé, donc des cotisations, qu'on met dans une caisse commune pour mutualiser les risques. Ce qui veut dire que, à un moment donné, si quelqu'un perd son emploi, ou est malade, ou part à la pension, on avait de quoi, dans cette caisse commune, de prévenir ces risques. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que, voilà, ça c'est le système tel qu'on l'a mis en place. Aujourd'hui, le travail a radicalement changé. On connaît tous encore beaucoup de gens qui ont un contrat à durée indéterminée, sans flexibilité. Enfin, nous, comme syndicalistes, ce qu'on voit, c'est une précarisation croissante des contrats, donc avec de plus en plus de contrats à durée déterminée, d'appels à l'intérim, donc ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les caisses du gouvernement par rapport à la possibilité chez le ministre de l'Intérieur. Donc on a vraiment une augmentation de la flexibilité. On a de plus en plus de contrats à temps partiel. Et c'est surtout les travailleuses qui sont à temps partiel. Donc ce sont des temps partiels que pour la plupart ne choisissent pas. Ce qui veut dire non seulement moins de revenus aujourd'hui, mais beaucoup moins de revenus si on tombe au chômage et certainement moins de revenus à l'âge de la pension. Donc on voit bien que le marché du travail ne protège plus aujourd'hui les individus comme il le faudrait. Donc, il y a non seulement dans les causes de l'augmentation des inégalités, bien sûr, des politiques néolibérales qui visent justement à renforcer ce qu'on appelle le capitalisme actionnarial, donc renforcer les actionnaires, etc. Mais il y a aussi toute cette transformation du monde du travail qui fait que notre système de protection sociale est de moins en moins adapté à la situation. Et donc, si je parle de ça, c'est parce que, comme je le disais, il y a aujourd'hui un enjeu énorme qui se pose. Je ne sais pas, vous allez peut-être réserver vos vacances avec Airbnb. Vous prenez peut-être les taxis Uber. Vous voyez un petit peu toutes ces nouvelles plateformes qui font que, finalement, on avance de plus en plus vers ce qu'on appelle la révolution numérique, la digitalisation de l'emploi. Et quand on pense à ça, non seulement il faut se rendre compte que ça va d'une part transformer l'emploi, il y a toute une série d'emplois qui vont disparaître, mais ça va aussi transformer l'emploi dans sa capacité à être encore un peu ce producteur de protection sociale. Donc, si vous voulez aujourd'hui avoir un graphiste, vous n'êtes plus obligé d'essayer de trouver dans vos notins un petit manager, ou un graphiste. Vous pouvez aller sur une plateforme qui s'appelle Upwork, et là vous dites, tiens, j'ai tel travail à faire. Et vous allez avoir une liste de gens dans le monde entier qui vont vous proposer de faire ce travail en mettant pour combien d'euros ils vont faire. Il faut aller voir cette plateforme, c'est absolument hallucinant. Pour la traduction, c'est la même chose, etc. Et donc, forcément, ces personnes-là, enfin, je veux dire, on ne voit pas encore comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des balises ici en Belgique par rapport à cette espèce de mondialisation et par rapport à cette digitalisation. Donc il y a ça, il y a la robotisation, etc. Donc on est quand même face à des enjeux majeurs. Et c'est une révolution technologique qui va très très vite. Et donc je pense qu'il va bien falloir, je ne sais pas moi, une ou deux générations avant qu'on ait pu prendre conscience des impacts et trouver d'autres modes de sécurisation des individus. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus par ce biais du travail que les individus vont pouvoir être sécurisés, et c'est pas plus par le biais du travail qu'on peut, enfin, en tout cas pas uniquement par le biais du travail qu'on peut lutter contre les inégalités. Alors, ce que je voudrais aussi dire du contexte, c'est quelque chose qui est plus l'enjeu démocratique de ce qui est en train de se passer si on laisse perdurer les inégalités, et du contexte aussi plus culturel dans lequel on doit travailler. Vous comme travailleurs sociaux, nous comme formateurs, comme syndicalistes, enfin, on est dans un contexte où travailler à lutter contre les inégalités, travailler collectivement est devenu très compliqué également. Hein, donc je voudrais dire deux, trois mots de ça, et je voudrais commencer par juste vous citer John Holloway, qui est un sociologue argentin, je crois, qui nous dit ceci. Comment pourrions-nous créer une société émancipée, nous qui sommes tellement mutilés par le capitalisme? Et donc, dans un des ateliers, vous avez exactement formulé ce que j'avais déjà préparé avant, donc de dire c'est très bien de parler de pouvoir d'agir, mais on doit d'abord parler des impuissances. Hein, et ces impuissances, ce ne sont pas des impuissances de tel individu ou de tel individu, son incapacité. Il n'est même pas capable de gérer son budget, il n'est même pas capable de faire ceci ou de faire cela. Moi, je crois qu'il y a vraiment un système qui construit les impuissances. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'on doit pouvoir travailler. Un système, mais à tous les niveaux. Hein. Vous avez parlé de la douleur managériale. Donc, dans un atelier, on a parlé du fait que les modes de management étaient des modes qui ne favorisaient pas le bien-être au travail. Là, ce sont des modes qui favorisent aussi l'impuissance. L'école, hein, le système scolaire tel qu'il est conçu, avec les inégalités qu'il provoque. Je veux dire que dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sortent de l'école avec autant d'impuissance, pas seulement à s'insérer dans le marché de l'emploi, mais avoir confiance en eux, avoir confiance dans l'avenir. Donc, moi, quand je regarde, j'ai un fils de 14 ans, je regarde ses cours, je me fais exactement la même chose aujourd'hui que quand j'étais à l'école il y a 30 ans. Or, le monde a complètement changé. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, on se retrouve... Enfin, je veux dire, il y a des impuissances qui se construisent aussi dans le système scolaire. C'est vraiment... quand on voit la compétition dans laquelle on les met encore, dire qui est le premier de classe, qui est le deuxième, tu es tout seul face à ton évaluation, alors qu'on est partout ailleurs, dans l'interconnexion, le réseautage, etc. Donc, je veux dire, il y a des choses qui continuent à construire les impuissances. La publicité est aussi des choses qui construisent les impuissances. Le temps de cerveau disponible, etc. Et donc, quelques éléments par rapport à ces impuissances plus politiques. D'une part, et je pense qu'il y a des personnes qui sont des conseillers communaux qui sont peut-être parmi nous. D'une part, on veut construire une démocratie plus participative. Mais ce faisant, très bien, je ne vais certainement pas critiquer ça. Ce faisant, on est dans une image de la société qui veut toujours rechercher du consensus. Construire du consensus. Mais si vous regardez bien, ce consensus, on ne peut le construire que dans des endroits qui sont déterminés a priori. Hein, donc, par exemple, dans certaines contrats de quartier. Et donc, qui va vivre dans ce processus? Qui est capable de prendre la parole dans ce processus? Hein? Est-ce qu'on ne reproduit pas des rapports de pouvoir si on ne réfléchit pas un peu plus d'une part, au type de dispositif qu'on met en place par rapport au fait qu'on veut faire participer le plus d'individus, et c'est tout à fait louable pour continuer à le faire, mais comment est-ce qu'on fait pour que les individus puissent participer réellement, hein? Comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre à débattre dans des instances qui sont dans des instances collectives? Donc il y a vraiment tous ces enjeux-là, et ça c'est du consensus, et je peux vous dire que comme syndicaliste, on en prend plein la gueule tout le temps. Quand on essaye de faire émerger un conflit, parce qu'il est légitime ce conflit, quand on descend dans la rue, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, comme on est mis en... Allez, on est stigmatisé par les médias, etc. Aujourd'hui, on ne veut plus de conflit dans cette société, parce qu'on a besoin de conflit, on a besoin de construire le conflit, on a besoin de pouvoir exprimer le conflit. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte. On est dans une société qui voudrait plus de consensus, et on va vous avancer ça, c'est bien aussi, c'est bien là. Mais à côté de ça, on a vraiment besoin de pouvoir retrouver des points où on peut exprimer le conflit. Un deuxième point que je vous mettre en évidence, c'est la dépolitisation des publics. La dépolitisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour toute une série de raisons, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent plus si elles sont de droite, de gauche, si un problème est politique ou n'est pas. Hein, donc on a vraiment une difficulté aussi par rapport à l'engagement plus idéologique. C'est-à-dire, moi je voudrais m'engager parce que je pense qu'il faut une société plus égalitaire, par exemple. Enfin, je veux dire, tout ça, on a une dépolitisation. Elle est liée, à mon sens, à deux éléments très importants. D'une part, au fait que les clivages entre la gauche et la droite ont commencé à se déstructurer. Donc on est face, notamment, si on prend la Belgique, elle a effectivement le pouvoir de prendre un certain nombre de décisions, mais dans un cadre européen, mais dans un cadre international. Et vous avez pu sans doute entendre hier que le budget qu'a remis la Belgique, eh bien, l'Europe disait, ben non, ce budget est risqué, vous ne répondez pas aux clous dans lesquels on veut vous mettre, votre dette va encore augmenter, vous devez prendre plus de mesures d'austérité. Donc à un moment donné, quand on est dirigeant d'un pays, qu'on soit de gauche ou de droite, on est quand même dans une série de clous qui sont des choses qu'on doit pouvoir gérer. Et donc pour le citoyen, ça devient parfois difficile de faire la différence entre un parti de droite et un parti de gauche. Hein, donc un parti de gauche va pouvoir prendre des mesures qui sont des mesures libérales, et donc on a du mal à voir quels sont encore les ancrages politiques. Nos politiciens ne nous parlent plus de projet de société, ne nous parlent pas de la conception de l'individualisation. Ils ne nous parlent que très peu de la conception qu'ils ont de la société civile organisée, etc. Et donc, je pense qu'on a une dépolitisation qui est liée au monde politique lui-même. Le monde politique n'a pas besoin que les citoyens soient politisés, à la limite, c'est même mieux de nous laisser faire. Nous laisser faire. Oui. Deuxième point, qui dépolitise les gens, c'est la technicité des problèmes. Hein, donc, franchement, on fait appel de plus en plus souvent à ce qu'on appelle des experts. Eh bien, on est dans une espèce de technocratie d'experts où finalement, décider qu'on va maintenir une centrale nucléaire ou pas, c'est une question de budget. Hein. C'est une question quand même de sécurité minimale. C'est une question de voir comment est-ce qu'on va approvisionner notre pays en électricité pendant l'hiver. Mais ce n'est pas un enjeu politique de savoir si on veut du nucléaire ou pas de notre pays. Est-ce que vous avez déjà entendu, en tout cas notre ministre actuel, parler de la question nucléaire dans cette réunion-là? Donc on est dans des problèmes qu'on technocratise de plus en plus. Du coup, pour les citoyens que nous sommes, c'est quand même compliqué aussi de retrouver là derrière des enjeux plus politiques. Donc je pense que ça, c'est un enjeu majeur et que nous, notre rôle avec les publics, c'est de repolitiser les questions. Et repolitiser les questions, ça veut par exemple dire que quand on a une émission comme Viva for Life, qui va reprendre la semaine prochaine, où finalement on se dit, mais tiens, il y a beaucoup d'enfants pauvres en Belgique, donner de l'argent pour ces enfants pauvres, servir les travaux, de les envoyer en vacances, de leur offrir des cadeaux de Noël, etc. Mais ce faisant, on dépolitise complètement l'enjeu. On ne se dit pas, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants pauvres en Belgique? Est-ce que c'est en leur donnant de l'argent ou des cadeaux ou tout ce que vous voulez qu'on va lutter contre la pauvreté? Donc on est sans cesse dans une dépolitisation, comme si à un moment donné on pouvait faire une série de constats et trouver des solutions à la petite semaine. Je crois que dans tout ce que vous avez entendu ce matin dans les ateliers, on lutte contre ça. Hein, on lutte contre cette dépolitisation et l'idée c'est que si on agit au niveau micro, ça peut avoir aussi, comme je le disais, un effet plus structurel, un effet macro. Et c'est, mais ça demande aussi de travailler avec les publics sur une politisation des enjeux. Hein, et donc de se dire comment est-ce que, à un moment donné, de ce qu'on comprend de la situation, on essaie de passer un moment à la constater, mais de comprendre d'où elle vient, enfin, et de se dire qu'on est parfois victime quand même d'un certain nombre de dispositifs systémiques. Enfin, les personnes qui sont coupables, parce que bon, bien souvent c'est comme ça qu'elles l'interprètent. Hein. J'ai raté mes études, je n'ai pas dénoncé ça avec mon mari, enfin, tout ce qu'on peut entendre. Le fait que les individus portent la responsabilité de leur situation, repolitiser, ça veut dire les déculpabiliser par rapport à ça, et ramener les situations par rapport à un système politique au sens large, donc pas un système politique uniquement lié à des hommes politiques, un système politique au sens large. Alors, un dernier élément sur ce qui construit nos impuissances, pas seulement des impuissances à agir, mais même à dire la situation, c'est tout le contexte d'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est un concept philosophique qui veut dire qu'il y a une domination, mais on ne s'en rend pas compte. Et une domination, mais elle s'exerce par le consentement. Et j'imagine que dans vos publics, vous devez certainement avoir énormément de monde qui vient en disant je veux m'émanciper par rapport au système, je veux lutter contre le système. Et la première chose, c'est que les gens veulent rejoindre le système. Hein? Je veux pouvoir, moi aussi, rentrer dans le système de consommation. Hein? Je veux pouvoir, comme tout le monde, me sentir reconnu dans ce système-ci. C'est à vraiment écouter ça. Mais donc, il y a un contexte d'hégémonie culturelle qui fait que on est tous dans des rapports de domination, on a parlé tantôt, enfin, se dire qu'à un moment donné, 1% de la population détient une richesse aussi importante que le reste de la population. Enfin, c'est un rapport de domination capitalistique, c'est absolument clair. On est encore dans des rapports de domination sexistes. Hein. La place des femmes, même dans notre pays, l'inégalité salariale, etc. Enfin, la répartition des tâches en Amazon, ben, on est dans un rapport de domination raciste. Ben, il n'y a pas besoin de ressortir le nombre de prises de parole politiques de notre secrétaire d'État pour le français. Donc il y a des rapports de domination dans la société, mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Et donc, l'hégémonie culturelle, c'est ça, c'est en fait être dans un système qui a une dominance culturelle. Et ne plus voir que ce système, c'est une option parmi d'autres. On ne peut pas choisir qu'il en soit autrement. Et donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important quand on travaille, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas à blâmer les individus qui veulent rentrer dans le système, on est tous conditionnés par ce système, et c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler à s'émanciper de ce système. Et dans ce modèle culturel, ce qui est vraiment aussi important voir, c'est que nous, on veut faire du collectif. Hein, on peut mettre en place des pratiques collectives. Quand on parle avec des gens qui veulent bien devenir délégués dans une entreprise, voilà, c'est encore quelques personnes qui se disent « Oui, c'est important de travailler collectivement, seul, on n'y arrive pas. » Là, on est dans une société où il y a eu une victoire du néolibéralisme à ce niveau-là aussi. Chacun veut réussir. Hein, et donc, réussir plus que les autres. On est dans un système où pour réussir, il faut être un peu un individu en compétition. Hein. Ce qu'on appelle un entrepreneur de sa propre vie. Hein. Donc, quand on voit comment on se met aussi en histoire biographique sur Facebook, ce genre de choses-là. Donc, on est dans une société où enfin, tout est fait pour que l'individu ait envie de se singulariser, et ça, c'est pas négatif, mais enfin, pour qu'il se singularise, ça veut dire qu'il se met en compétition avec nous. Et c'est très clair, par exemple, je l'ai remarqué, parce qu'on est collègues, quand on voit, par exemple, parfois même les préjugés qu'il y a chez les travailleurs par rapport aux chômeurs ou par rapport aux étrangers. Donc vous voyez, on met des groupes en compétition. Je ne peux réussir que parce que d'autres ne réussissent pas. Et quand vous regardez un petit peu, enfin, je ne sais pas, le contexte médiatique, mon fils regarde l'évolution que j'avais jamais vue. Je suis restée mais complètement scotchée. Collante. Vous pouvez éliminer le maillon fort de votre propre équipe parce que sinon c'est vous qui allez être éliminé. On élimine le meilleur de l'équipe parce que sinon on a peur d'être le prochain qui va être éliminé. Vous vous imaginez. Et c'est tout et comme ça des concours de voice, etc., etc. Et donc on est quand même dans un contexte culturel qui nous conditionne à se dire comment est-ce que je fais pour sortir du lot, comment est-ce que je fais pour sortir de cette guerre de tous contre tous. Et dans les entreprises, je peux vous dire que les modes de management, c'est aussi dans cette dynamique-là que c'est parfois du langage un peu guerrier. Donc voilà, je pense que ce sont des choses qu'il faut pouvoir comprendre. Alors maintenant, vite, en quelques minutes, et après on laissera du temps pour débattre, que faire par rapport à ce contexte ? Contexte dont, voilà, j'espère que vous n'êtes pas déprimé. Mais il faut travailler sur les pistes macro et il faut travailler sur les pistes micro. Les pistes macro, certains des ateliers les ont abordées. C'est des pistes structurelles. Je veux dire que, oui, à un moment donné, on doit pouvoir encadrer. C'est une piste structurelle. C'est une piste où on essaye, sur l'échelle d'un territoire, de mettre en place des mesures dont on va pouvoir vérifier par la suite qu'elles auront eu un impact sur la réduction des inégalités. Ce fait que chacun va pouvoir retrouver une place dans la société. Ce sont des revendications comme, et voilà, comme syndicaliste, on a vraiment notre part de responsabilité par rapport à ça, comme la protection sociale, un revenu décent pour tous, du travail soutenable. Se dire que c'est un travail en vélo, mais il faut encore qu'on puisse ne pas tomber dans le rôle, parce que la santé au travail, c'est aussi quelque chose dont on voit qu'il y a vraiment des gros groupes sociaux aujourd'hui. C'est des revendications comme la justice fiscale, etc. Donc il y a toute une série de pistes qu'il faut pouvoir mettre en œuvre. Là où on est, donc, sur l'échelle d'un territoire, à un niveau, au niveau de la logique, etc. Et je crois qu'on va devoir travailler de plus en plus, il ne s'agira plus que ce soit uniquement les syndicats qui soient dans la rue pour se faire entendre. On voit bien qu'on ne se fait pas entendre. Donc je pense qu'il y a tous ces domaines-là sur lesquels il faut vraiment se rendre compte qu'on est dans une situation d'urgence et qu'on doit tous relever ces défis. Sauter sur tout ce qui bouge pour pouvoir renforcer des leviers qui permettent de lutter contre les inégalités. Et puis, ce sur quoi je voudrais intervenir, et c'est plus aussi ce qui s'est dit dans les ateliers 3 à 7, c'est toutes les pistes qui vise à travailler, à lutter contre les inégalités de manière bottom-up, donc à partir du terrain. Comment est-ce qu'on fait, pas seulement au niveau macro, mais donc au niveau de nos pratiques, au niveau de ce qu'on fait avec les publics. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose qui permet de lutter contre les inégalités. Et donc, dans ce que j'ai entendu, et là, c'est plus écho à ce que j'ai entendu dans les ateliers, j'ai entendu, d'une part, quelque chose qui me semble vraiment important, c'est de recréer de la confiance. Je pense que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'impuissance à agir et à même se dire dans la société dans laquelle on est. Et donc, la confiance, c'est quelque chose de primordial. avoir confiance en soi, avoir confiance dans le fait que ça vaut le coup de jouer le jeu social, ça vaut le coup de venir dans un collectif. Donc c'est difficile pour les personnes de se retrouver chez elles. Et donc vous avez dit, et c'est une des recommandations, on voit bien qu'on ne peut pas rester dans le bureau. Si on reste dans le bureau, peut-être qu'il y a toute une série de personnes qui ne viendront pas. Et donc recréer de la confiance, c'est aussi aller trouver les individus, trouver des dispositifs qui permettent à ce que des personnes justement qui ne viendront pas de même, qui sont désengagées, désaffiliées, puissent se dire, eh bien oui, je vais trouver ma place si je viens dans ce collectif-là, oui, je vais être écoutée dans ce service. Et donc ça nécessite vraiment d'avoir une réflexion sur ce qui peut recréer de la confiance. Autre enjeu majeur, à mon avis, c'est collectiviser. Donc on a, et c'est vraiment fort dans ce qu'on entend chez nous, collectiviser, ça veut dire que bien souvent, ce sont des individus qui viennent avec une demande, une plainte, et on doit traiter la difficulté de la personne. Tout ce que vous faites comme réflexion ici, c'est vraiment se dire que ce travail n'a pas de sens si on ne peut pas en tirer des leçons plus collectives. Et donc, je pense que c'est vraiment important de continuer à faire un travail d'expression collective. Donc, souvent, parler de stigmatisation ou de mauvaise représentation, etc. Là, je ne suis pas sûre qu'au niveau, par exemple, des gens qui nous gouvernent, qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, toutes les œuvres d'expression collective qui permettent que le citoyen lambda qui va bien, qui n'a pas de problème de précarité, etc., puisse se rendre compte de ce que c'est que cette situation. Mais aussi toutes les expressions collectives qui vont jusqu'à l'expression politique sont des choses sur lesquelles il faut absolument travailler. Et dans un atelier, il y avait une expérience qui était explicite de donner un autre regard sur la prostitution. Et donc c'était un projet qui avait été mené avec des prostituées. Et donc, avec elle, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, bah, tiens, pour parler de la prostitution, on va en parler de cette manière-là, on va en parler. Donc, c'était construit à partir du public et de manière vraiment à interpeller les citoyens. Donc, avec une expo photo qui, chaque jour, en disait un peu plus pour changer le regard. Et donc, c'est vraiment des choses qu'il faut pouvoir remettre en œuvre. C'est cette manière d'expression collective, de faire changer les représentations et de pouvoir énoncer un enjeu collectif et aussi dénoncer ce qui ne va pas. Et donc je pense que c'est vraiment un enjeu démocratique majeur. Autre chose dans la dépoliticisation, c'est que les gens ne se sentent plus beaucoup représentés par les élites. On voit bien l'élection aux USA, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui, les populismes prennent un peu part, de plus en plus de place partout. Et donc on ne se sent plus représenté par ceux qui nous gouvernent. Donc l'important c'est aussi de travailler sur la représentation qu'on veut se donner, la représentation collective. Et enfin je pense qu'il y a un terme qu'on n'a pas beaucoup exploré ici, et qui est un terme qui n'est pas si facile à appréhender, c'est celui d'émancipation. Et l'émancipation, je pense que c'est un terme qu'il faut vraiment pouvoir aussi réinvestir, pour se dire que ce qu'on veut, c'est pas. C'est ce qu'on veut créer avec les publics, c'est une émancipation. C'est pas les émanciper, c'est qu'on puisse renforcer le pouvoir d'agir pour s'émanciper soi-même. Et donc travailler sur tous les leviers d'émancipation. Donc, l'émancipation, ça peut vouloir dire à la fois arriver à combattre les rapports de domination, ça c'est au niveau structurel, et au niveau des individus et des groupes, l'émancipation c'est vraiment renforcer notre pouvoir d'agir. Alors, d'autres choses que j'ai entendues me disent, dans l'émancipation en fait, on a un postulat qui est celui de l'égalité des intelligences. Donc, dans un certain atelier, je ne sais plus lequel, on a dit, oui mais il faut partir des capacités potentielles des individus et pas du fait qu'ils soient a priori incompétents sur tel ou tel aspect. L'émancipation, enfin, faire devoir d'émancipation, c'est ça. C'est partir d'un postulat d'égalité des intelligents. Quelqu'un a toujours plus à dire de sa propre situation que quelqu'un d'externe. Et donc, à partir de là, à partir de sa situation vécue, il est vraiment possible de le faire parler, de le mettre en lien avec quelqu'un qui vit le même type de situation et de voir comment est-ce qu'on construit ensemble. Et ça, ce sont par exemple des processus qu'on utilise beaucoup dans l'éducation populaire. Hein, donc c'est de dire, mais ta parole, toi, le petit jeu qui ne se sent pas capable, elle est vraiment importante dans le groupe. Et donc faire par exemple des focus group où les gens peuvent parler de ce qui leur arrive, et puis leur voisin parle de la même chose, et le troisième parle aussi quelque chose de proche, mais ça déculpabilise déjà énormément. Et l'émancipation, elle part de là. Donc du fait que, comme professionnel, comme accompagnateur, on postule que on a tous une égalité des intelligences, il y a juste qu'on n'a pas tous les mêmes conditions sociales pour développer en fait nos capacités. Et donc c'est vraiment important de pouvoir mettre les gens en confiance par rapport à ça. Et voilà, tout ça, ça demande énormément de temps. On a entendu le mot processus dans la plupart des ateliers. Le processus est un processus de long terme. Or, on est dans une société courte, une société de l'urgence, etc. Et donc voilà, je crois qu'il faut qu'on reste accroché à ça, accroché à nos valises. En disant, le travail qu'on fait, ben, parfois, il est frustrant parce qu'on a des toutes petites victoires, mais qu'en gros, si on additionne tout ce qu'on fait, et ben, c'est un travail utile et qu'on ne va surtout pas baisser les bras. Donc, voilà.
Alors, est-ce que quelqu'un a envie de réagir par rapport à l'information et par rapport aux recommandations qu'on a données par rapport à moi ? Oui,
Dominique ? C'est une question. J'aurais voulu savoir un peu votre avis sur l'idée d'une adaptation universelle.
Donc la question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire changer de mentalité auprès de personnes qui ne sont pas spécialement déjà sensibilisées aux inégalités sociales ou qui ne le vivent pas d'intérieur, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup dans la majorité de la population, c'est l'hégémonie. Comment est-ce qu'on peut changer cette hégémonie et voilà, agir à ce niveau-là, quoi.
Est-ce que la notion du conflit sous le cadre est compatible avec l'élaboration d'un plan de cohésion sociale ?
Vous disiez qu'aujourd'hui, un travailleur sur sept est un travailleur pauvre. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de femmes ou d'hommes ?
Martine, tu te répondras mieux à la question.
Oui, d'ailleurs, c'était les chiffres. Voilà.
Une question, Natacha. Tu pourras exprimer ça.
J'ai trouvé l'intervention très intéressante du sujet. Exactement d'accord avec vous, je n'aurais pas utilisé le mot principe, mais je crois qu'il ne faut pas être consensuel nécessairement. On peut, c'est dit qu'il y a des désaccords, et à partir des désaccords, on peut construire quelque chose sans nécessairement être un conflit. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qui est organisé aujourd'hui, c'est qu'on s'est référé beaucoup à la situation ici, à Louvain-la-Neuve, parce que je trouve que, étant donné les contextes que vous avez marqués, les macro, je ne vais pas expliquer comment est-ce qu'on a perdu la confiance dans la politique, comment, parce que tout le monde est d'accord sur ça, on a perdu confiance, on a fait vos élections pour avoir perdu confiance. Par contre, de quoi il s'agit ici, c'est de dire comment nous allons faire sur telle chose nous-mêmes. C'est déjà une façon de dire, vous êtes capable. Et je disais, parce que je suis message de la personne, quand vous avez un problème dans votre travail, ne vous contentez pas du certificat, mais dites-vous bien que si vous êtes le chef, vous devriez proposer une solution. Et donc, pensez comment ça c'est qu'un jour, à la solution, pour la proposer à vos collègues et pour pouvoir aller sur votre niveau de travail sans attendre que les chefs ou les structures mettent quoi que ce soit en place, parce que normalement ça ne se passe pas. Deuxième réflexion, cette société capitaliste et libérale a plein de prévus. Et donc, a plein de bonnes choses que nous pouvons leur montrer, mais pour les détourner à l'autre côté. Donc, j'ai travaillé à la soumission médicale qui a créé un système de paiement où les patients ne payent pas, donc c'est un contrat avec les patients de côté. Eh bien, avant de me pensionner, j'ai eu le malheur de savoir que dans ma même ville, une structure qui veut du profit crée des maisons médicales au forfait parce que le système est bon pour pouvoir faire du profit. Et donc, il faut être attentif à proposer des choses, mais à voir quelles sont les balises pour que ça ne soit pas profitable à un système que de toute façon nous avons fait.
Alors, sur la question universelle, c'est une question complexe dans le sens où ce qu'on met sous le vocable à la question universelle est très très différent. Donc, on peut avoir des projets de droite, l'allocation universelle. Un projet de droite de l'allocation universelle, ce serait de dire on donne telle somme à tous les individus, mais après qu'ils se démerdent et qu'ils viennent pas encore se plaindre en plus. Et donc ça permettrait de limiter encore les allocations de chômage, de moins rembourser les soins de santé et de limiter les services publics et les services collectifs. Il y a des projets d'allocation universelle de gauche. En tout cas, il y a des projets
solidaires.
Oui, solidaire, de revenus de base. Récemment, quelqu'un comme Philippe Defeyre a fait une proposition qui est vraiment une proposition intéressante dans le sens où il montre avec quel type de revenus on pourrait créer tout un système qui ne détruit pas la sécurité sociale, mais qui sécurise quand même les individus. Et il met un petit peu ça en balance avec d'autres propositions progressistes, de dire ce n'est pas une allocation universelle tout seul qui va solutionner les choses, mais il faut aussi partager le temps de travail, donc réduire collectivement le temps de travail pour que tout le monde puisse avoir accès au travail, etc. Donc répondre à cette question, c'est une question très complexe parce qu'il faut voir ce qu'on veut mettre derrière le terme allocation universelle. En tout cas, de mon point de vue, on doit de toute façon aujourd'hui se battre. D'une part, c'est que chacun ait un revenu décent. Quand on voit finalement la manière dont certaines personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans un pays comme le nôtre, ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'on doit lutter contre toutes ces dégressivités des allocations de chômage. On doit pouvoir, à mon sens, et ici je parle à titre personnel, hein, parce que dans le syndicat avec lequel on travaille, tout ça est en très grosse réflexion et donc il n'y a pas une position officielle pour le moment, parce qu'on remet un peu tous nos fondamentaux en question. Mais à mon sens, c'est vraiment travailler sur l'individualisation des droits, hein, donc qui fait que chacun va pouvoir avoir la somme à laquelle il a droit et que si tu es en ménage, tu ne perds pas une partie. Enfin, je veux dire, ce sont des questions. Mais donc, sur l'allocation universelle, moi, je n'ai pas une position de dire que c'est la panacée. Je crois que dans le rapport de force dans lequel on est aujourd'hui, avec les libéraux au pouvoir et avec ce qu'on entend et avec ce qu'on voit comme mesure politique, il faut être très, très, très prudent. Hein, donc, si un jour on veut défendre cette position, c'est avec énormément de balises par rapport au fait qu'on garde d'autres allocations. Et on continue à investir dans des services collectifs et des services publics. Là, quand je dis un revenu décent pour tous, c'est non seulement un revenu qui permet de vivre, mais c'est aussi des maisons médicales accessibles, c'est aussi des services collectifs comme des crèches qui permettent évidemment d'y avoir accès parce que ce n'est pas inaccessible, soit au niveau financier, soit au niveau de la mobilité, etc. C'est tout ça qui fait la protection sociale, c'est le revenu, mais c'est tout ce... Enfin, il faut se battre pour le reste aussi. Hein, et donc des services collectifs de qualité, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, sur le fait de changer les mentalités, ben, malheureusement, si on avait une recette magique, je crois qu'on l'aurait déjà mise en œuvre. C'est très très difficile. Et comme je le disais, ce qui est difficile aussi, c'est que parfois les publics avec lesquels on travaille auraient envie de se dire. Ben voilà, moi je suis plus en bas de l'échelle, mais j'aimerais bien être tout en haut, et tant pis s'il reste une échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de se dire que on est dans un système où il y a une stratification, et si on est en bas, on voudrait bien être en haut, mais on ne remet pas en question le fait qu'il y a une stratification. Donc je pense qu'au niveau des mentalités, mais nous, enfin, forcément, chacun de là où il travaille à une conscientisation, comme je disais, une politisation, on essaie de faire comprendre d'où vient cette stratification, etc. En tout cas, ce n'est pas les médias qui vont nous aider. Hein, c'est très compliqué de faire évoluer la question sociale dans les médias, si ce n'est par du sensationnel. Donc, dès que vous aurez les premières neiges, on va vous faire un point sur les sans-abri. Enfin, pendant tout le reste de l'année, on ne traite pas la question, mais les sans-abri ont tout aussi beaucoup de difficultés en automne, en printemps et en été. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, je ne sais pas répondre à la question. Je pense que c'est un travail à beaucoup de niveaux différents, et en tout cas, de là où on est, de sensibiliser sur les causes de ce système. Qu'est-ce qui crée, en fait, ces inégalités? Qu'est-ce qui crée la pauvreté? Et donc, un travail de repolitisation.
Moi, je voudrais compléter la publicité, parce qu'on a dit qu'on est focalisé sur les 1% et sur les pauvres. Et comme si au milieu, il y avait quelque chose d'uniforme. Et je pense que ce qu'on a expliqué de faire ici, c'est quand même montrer qu'il y a la nuance, qu'il y a de nouveau, je veux dire, aller au-delà de la moyenne, si on prend les chiffres de moyenne. Et souvent, on nous dit, ça, c'est l'étiquette de l'extérieur. Et donc, on simplifie une situation qui est beaucoup plus complexe que faire ce qu'on fait. Ça permet de montrer qu'on est dans des organisations où, d'une manière ou d'une autre, on joue un peu à cette. Organiser le cœur de l'individualité. Après, si tu veux parler
de. Je voulais réagir à. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Je dirais simplement, je vais taire ce que j'ai dit tout à l'heure, sauf que l'organisation d'aujourd'hui ne va pas tellement dans ce sens-là. Vous voulez du conflit, moi, je peux vous en donner, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est complètement. Moi, j'ai l'impression d'être dans un rassemblement gauchiste sur ces initiatives du plan de cohésion sociale, c'est communal, et je trouve qu'on se déforce, en fait. On aurait tout intérêt à avoir votre discours, et puis ensuite un discours contrebalancé, beaucoup plus riche. Ici, moi, j'ai l'impression vraiment d'être devenu un meeting de la GTD, ou. C'est dommage, alors que les médias, politiques et politiques, alors les médias sont bourgeois, sauf si on regarde, par exemple, les médias locaux. Télécom ici, c'est une communication positive, créative. Bon, la politique, moi qui m'anime au sein de mon ASBL, la Chaloupe, il y a des politiques il y a des subventions de droite qui viennent de droite, il y a des subventions qui viennent de gauche, et il y a des choses qui se font. Et moi, je vous m'avais donné le bourdon, enfin, c'est votre centre de commerce. Et moi, je suis ici, il y a un bourdon incroyable, il y a plein de choses qui se font super, qui se mettent en place, et c'est pas contrebalancé, quoi, c'est que une directrice. Donc, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Étienne, vraiment tout à fait d'accord, sauf que c'est pas le panel qui. Le panel ne va pas dans ce sens-là.
Bah, ça rejoint un petit peu la question de Michel. Est-ce qu'on peut être un grand sujet de la cohésion sociale et des conflits?
Oui, mais après, je vous répondrai aussi sur le mot conflit. C'était justement vraiment pour le mettre en porte-à-faux par rapport au terme de consensus. Et donc, ce que je critique, c'est le fait que dans une série de lieux qui sont prédéterminés pour pouvoir créer du consensus, on a beaucoup de difficultés à faire émerger le conflit. Or, je crois que le conflit, oui, c'est que conflit et cohésion sociale vont évidemment ensemble. Quand je dis conflit, ça veut dire aussi que on peut pouvoir, des groupes peuvent créer un intérêt particulier, à mettre en balance avec d'autres intérêts. Donc je pense que c'est ça le conflit, c'est de pouvoir prendre en compte des intérêts qui se construisent collectivement. Et on n'a pas tous les mêmes intérêts dans la société, je vous rejoins, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Ici, moi j'exprime le point de vue, effectivement, de ce que je vois au jour le jour avec les gens avec qui je travaille. Et donc, on voit, je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas la même représentation du monde de la vie. Et je trouve que dans une société du consensus, souvent, on ne laisse pas assez la place au dialogue ou au désaccord entre des représentations du monde différentes. Donc pour moi, c'est ça, pour ça que je voulais dire par conflit. Le conflit, c'est évidemment pas aller casser des vitres et des choses comme ça. Je suis vraiment en tout point en désaccord par rapport à ça. Mais c'est de se dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir exprimer les différentes représentations richesse du monde qui sont en lien avec des intérêts différents. Et monsieur, je suis d'accord avec vous de dire qu'il y a ici une seule représentation, mais voilà, c'est un mot. En tout cas, je parle au nom de ce que je côtoie tous les jours, et je peux vous dire que, même si je suis d'accord, il y a plein de choses qui se font, et on le voit bien ici, dans tous ces ateliers, c'était magnifique d'écouter toutes ces expériences, et c'est ce que je disais à la fin, en disant « on ne baisse pas les bras », il y a plein de choses qui se font de manière positive, mais il y a une catastrophe sociale, il faut qu'on s'en rende compte. Il y a des gens pour qui la vie est extrêmement compliquée, et enfin, c'est notre rôle de dénoncer, c'est vraiment notre rôle de dénoncer, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas. Voilà, il aurait peut-être fallu avoir quelqu'un d'autre qui représente un autre type d'intérêt.
Oui, je pense que je l'ai déjà dit dans la vie,
on n'est pas gauchiste.
Sur la question du travail, quand je fais appel sur la question du travail, au président de la faculté de sciences du travail, qui représente les mêmes intérêts que j'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas le temps, je me suis dit des personnes qui sont en ressources humaines, chez l'ESDAC particulièrement, qui n'ont pas répondu, à la clinique Saint-Pierre qui n'ont pas répondu. Donc je pense aussi que cette question de l'inégalité sociale, d'abord pour rejoindre aussi la question du lien, elle n'était pas nécessairement à l'ordre du jour avant que Fadil Lalana ne la remène comme telle. Et c'est vrai que moi je me sens plus en accord avec la manière du politique quand il amène des choses de manière peut-être plus claire que sur les concepts qui. Hein, je pense qu'il est clairement important de questionner ce concept. Et les concepts que la région et la liste qui est là, quelque part dans la salle. Que l'Europe nous amène, bien-être, cohésion sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc effectivement, il s'agit bien de se poser la question et de voir qui est préoccupé de ces questions-là aujourd'hui, qui porte ça. Et moi, je reviens, pourquoi je suis content de faire un lien aussi avec le monde syndical? Parce que je me pose aussi la question de savoir pourquoi nous interdisons les questions de rapport de revenus qui sont fondateurs de notre société et qu'on cautionne d'une manière ou d'une autre en acceptant les salaires, en travaillant dans une structure de travail. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille tout le temps être lâche, ça veut dire en tout cas d'accepter de mettre les choses sur la table. Dans notre atelier, par exemple, on a parlé de la question de parler en sécurité. D'ailleurs, Dominique Blix, qui travaille à l'éducation, je peux dire qu'il est bien à cette position-là, qui est intéressante. Est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui, dans une structure comme une administration commune, une clinique, une université, de dire voilà, comme travailleur, je viens dire les choses, et c'est un lieu du coup qui est répercuté. On sent qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps sur des conflits syndicaux ou des conflits d'équipe. Hein. C'est simplement se dire voilà, comment les choses peuvent se dire dans l'envoyer de manière claire et nette sur des enjeux. Et moi, je suis de la philosophie de dire que c'est un facteur de cohésion. De pouvoir exprimer les choses, de pouvoir se dire les choses en face, de pouvoir les mettre à plat, c'est ça qui va créer de la cohésion. Et c'est ça qui va créer de la vision et de la motivation de la connaissance. Et donc c'est des passages, on vient plus sur les aspects de théologie, mais c'est des passages indispensables. Voilà. Maintenant, sur la. Moi j'espère ouvrir, entre autres au niveau invité, tout le conseil communal, tout le conseil communal est invité ici. Tous les présidents du conseil conservatif sont invités ici. Mais maintenant, je ne pense pas que tous les conseils communaux ne soient pas plus pour des questions de sensibilité et aussi la disponibilité. Enfin, voilà, je pense sur le panel. Et pour justifier aussi l'invitation de Laurence, ben, je trouve que ces deux casquettes de praticienne et de philosophe sont intéressantes. Ben, je pense que c'est la scène. Ben voilà, on fait tout le monde.
Alors, effectivement. Je disais, mais tiens, le monde du travail s'effrite, le nombre de travailleurs à temps partiel a vraiment augmenté, mais c'est surtout des travailleuses à temps partiel. Alors c'est parfois lié à l'employeur qui ne veut pas donner plus d'heures, qui n'a pas des horaires compatibles. C'est aussi lié au fait que dans la société, malgré le fait que les choses aient évolué, on a encore une répartition des tâches où c'est les femmes qui s'occupent du soin, qui s'occupent de la maison, etc. Et donc, à un moment donné, parfois même si un employeur peut proposer un temps plus important, un temps de travail plus important, une femme n'est pas en mesure de l'accepter parce qu'elle n'a pas de relais. Autre point qui qu'effectivement, j'avais noté quelque part, et que je ne pas dit, dans le changement de contexte, toutes les familles monoparentales, ça joue, énormément dans les questions de prévérité. Or, notre société n'a rien fait. Voilà, c'est la fin. Donc, on paye le même loyer qu'on soit seul ou qu'on soit deux. On n'a pas des allocations majorées tellement simples de se mettre de vivre sa situation de monoparentalité. Il y a énormément de choses qui touchent de manière encore plus forte les femmes que les hommes. Ça, c'est évident. Et donc, on va évidemment aussi prendre tout ça.
Voilà, on va s'arrêter là. Merci de votre